Prions. Seigneur, devant ce moment où il faut partager ta parole, on demande ta présence, ta bénédiction. On demande que tu nous parles, Seigneur. Que à travers cette lecture qu'on va faire de ta parole et à travers les explications qu'on va essayer de donner, que ce soit toi qui nous aide à comprendre mieux tes vérités, à comprendre mieux comment il faut se porter ici dans ce monde et comment nous encourager les uns les autres. Merci Seigneur pour ce texte que tu nous as donné aujourd'hui et pour ce hommes et femmes qui ont travaillé avant nous, Seigneur. Amen. Donc, lisons tous pour commencer. Le texte qui s'ensuit, celui de la semaine passée. Est-ce que vous vous rappelez où nous sommes? Dans les actes 18. Merci, Lily. Est-ce que vous avez lu ce texte pendant ces périodes-là? Oui. Je vous encourage d'être assez noble quand ces juifs de Béret qui regardaient aussi le texte à la maison. Pas juste on écoute ici ce qui se passe, on vérifie si ce qu'on dit ici c'est vrai, c'est raisonnable, ou on est complètement à côté de la vérité. Donc, continuons la lecture des textes des Actes des Apôtres avec le chapitre 18. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 22. Verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, original du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'est lié avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et travailla. Il était faiseur des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguée à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme des raisons aux Juifs. Mais s'il s'agit des discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de cette chose. » Il les renvoya du tribunal. Alors tous, en saisissant Sosthène, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal sans que Galion soit mis en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Synchrès, car il avait fait un vœu, il arriva à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entendit avec les Juifs qui le prirent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Amen. On est effectivement à la fin du deuxième voyage et on a fait la lecture de ce passage où on raconte la fin du deuxième voyage de Paul, deuxième mission, voyage missionnaire de Paul. Il est arrivé à Corinthe. Si vous, je vous demande, c'est où le Corinthe, est-ce que vous le savez? Oui, quelque part en Grèce. Mais c'est une ville qui a été détruite par des tremblements de terre, par des invasions, qui a quasiment disparu. C'est récemment qu'on a recommencé une nouvelle ville, pas très loin de cette ville qu'on avait à l'Antiquité. J'aimerais, s'il te plaît, de commencer à mettre le PowerPoint. Donc, on est avec l'apôtre Paul, après avoir passé par toute cette région de l'Asie mineure, il est arrivé en Macédoine, le nord de la Grèce, il est descendu à Athènes, celle qui est aujourd'hui la capitale de la Grèce, et voilà, on le voit ici, il était là, il est descendu, il est arrivé à Athènes, on était la semaine passée à Athènes, et aujourd'hui on est à Corinthe. Disons un petit peu... avant-dernière étape de son de la fin de son deuxième voyage. Voilà. On le voit ici, on est à Corinthe. Où se trouve Corinthe? C'est sur un isthme. Tu peux passer l'autre slide. Oui, voilà. C'est sur ce isthme-là qui aide énormément cette ville de se développer. Elle a été complètement rasée par les Romains quand ils ont conquéri la Grèce en 146. Et après, Julius César, que vous certainement vous avez entendu de lui, c'est lui qui a décidé de reconstruire la ville. Peut-être que c'est mieux comme ça. Donc, il décidait de reconstruire la ville. Et on va même l'appeler Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Ça veut dire que dans l'honneur de Jules César, c'est une colonie, n'est plus une ville grecque. La ville dans laquelle l'apôtre Paul arrive, c'est une colonie romaine. Bien sûr qu'il y a des Grecs, mais il y a des Grecs partout. On est dans une période de ce qu'on appelle hellénisme, où presque tous ces mondes civilisés ont été conquéris par Alexandre le Grand et tous ses descendants, ils ont imposé la culture et la langue grecque. Et on parle partout un petit peu cette langue-là. Mais on est quand même en Grèce, n'est-ce pas? Et dans cette région de la Grèce, celle que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Se trouve cette ville de Corinthe qui s'est développée au 1er siècle particulièrement et qui devient justement à l'époque des Claudes à son apogée. Donc on voit la ville de Corinthe à l'époque de Claude qui vient une ville très prospère, qui est la plus grande ville de cette région de la Grèce, celle que nous connaissons aujourd'hui la Grèce, parce que cette région qui était toujours la Grèce à l'époque, mais appartient à la Turquie aujourd'hui, mais dans cette région, c'est la plus grande ville. on parle de quelques centaines de milliers d'habitants. Ben, ce n'est pas seulement Corinthe, il y a encore deux ports qui sont un d'un côté et l'autre de l'autre côté des mers, et qui fait que c'est une région de transit. Les bateaux passent par Corinthe. Au sud de la Grèce, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de tempêtes et aussi il y a des roches dans la mer qui font que les marins ne veulent pas, ils évitent de faire tout ce qui est possible de ne pas passer par là, par cette région du sud de la Grèce, entre Crète et la Grèce. Donc si tu viens de Alexandrie, alors bien sûr tu vas prendre la grande mer pour arriver en Italie, mais si tu es de toutes ces régions-là, préférable c'est d'aller jusqu'à Corinthe. À cette époque-là, il n'y avait pas un canal. Aujourd'hui, ils ont fait un canal. Tu peux changer la slide? Voilà. Corinthe se trouve sur ce petite langue qui va lier le Péloponnèse, le sud de la Grèce, de l'Europe continentale. C'est juste ça qui, aujourd'hui, le fait qu'ils ont fait un canal ici, c'est presque comme une île. Mais à cette époque-là, c'est avec cette région-là qui a aidé énormément Corinthe de se développer à l'époque. On vient avec les bateaux. Ici, on a une sorte de charrue avec des roues. On va mettre les bateaux sur ça, on va les traverser de l'autre côté. Et qui fait que on apporte beaucoup d'argent dans cette ville qui va se très bien développer au premier siècle de notre ère, n'est-ce pas, l'ère de Christ. Donc, ça, c'est économiquement. Donc, une ville qui est très, très prospère et qui va bien et qui a aussi un sort de jeux comme les Jeux olympiques, Jeux ismiques, tout à deux ans, qui ramènent des gens de partout pour ces jeux-là. Donc, ça attire la foule. Et il y a encore quelque chose qui est extrêmement intéressant pour cette époque-là. Il y a une sorte de divinité locale la plus appréciée. Vous vous rappelez, à Athènes, c'est quoi la divinité? Athènes. C'est la déesse Athènes. Mais jusqu'à aujourd'hui, Athènes, c'était leur divinité locale. C'est leur déesse. Acropole, c'était comme une sorte de temple. C'est un temple tout fait dans l'honneur de cette grande déesse de Athènes, qui est Athènes. Corinthe avait eux aussi. Et c'est appelé Acro-Corinthe. C'est aussi un grand temple qui était dédié à la déesse de la beauté. Ah, n'est-ce pas? Aphrodite. C'est ça, celle qu'on appelle, les Romains appellent Vénus aussi. C'était la divinité de la beauté, de l'amour et de la fécondation. Et imaginez-vous, qu'est-ce que ça influence la ville? Combien de prêtresses pensez-vous qu'il y avait eu? Oui, plus que 1000 prêtresses. Et toutes des belles femmes qui étaient là pour faire de l'amour, n'est-ce pas? On venait faire des super offrandes au temple avec beaucoup d'argent. Et il y avait même un sort d'anecdote, c'est pas à n'importe qui d'aller à Corinthe. Pourquoi? Parce que juste les riches peuvent se permettre de payer ces belles femmes. C'est la prostitution sacrée. En honneur de leur divinité locale. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout pour honorer la divinité de Corinthe, bien sûr de tout le monde. C'est la déesse de l'amour, de la beauté, cette Aphrodite. Donc, on y voit ce développement de tous côtés. Donc, des gens qui arrivent de partout, on voit un développement économique, disons, spirituel, religieux, pour l'époque, et qui fait que ça va bien d'un certain point de vue pour la ville de Corinthe, n'est-ce pas? Dans leur monde, à eux, ça va bien. S'il te plaît, tu peux changer. Donc, regardez une vue d'aujourd'hui sur ces langues qui va lier Péloponnèse. Aujourd'hui, il y a un canal qu'on l'a fait. On a voulu à l'époque, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Ça fait que depuis une centaine d'années approximativement qu'on a réussi à faire ce canal et qui font que les bateaux puissent écourter leur direction vers l'Italie. Voilà, aujourd'hui, c'est ça le Corinthe que nous connaissons. C'est une ville, c'est des ruines. Mais ce qui fait que depuis 1890, il y a une école américaine qui s'est trouvée à Athènes, qui a fait des fouilles. Et nous connaissons un petit peu tout le centre-ville, exactement comment il a été. Le champ, s'il te plaît. Donc, on voit aussi ces ruines. Certaines sont mieux préservées que les autres. Et regardez, ça c'était tout en haut, le temple d'Aphrodite à Corinthe, le temple de celle qui était. Ça ressemble beaucoup au Parthénon, n'est-ce pas? Celui qui est l'Acropole. Donc il y avait aussi. Et aujourd'hui, on a effectivement très bien montré tout le centre-ville de Corinthe antique. Nous les connaissons bien. Donc, et s'il te plaît, maintenant, tu peux mettre le petit. Voilà, ça c'est juste en bas. Il y avait deux ports, une des côtés occidental ou des côtés oriental. Dans ces ports-là, que l'apôtre Paul est venu. Donc, c'est comme une ville. C'est assez grand, Kenkres. Et c'est ici qu'il s'est rasé la tête avant de prendre le bateau, partir vers Éphèse et par la suite continuer le voyage. Vers la région d'Israël. Voilà. Et on a aussi un petit vidéo, parce que le fait que nous connaissons bien la ville, on a pu mettre ça sur 3D pour comprendre exactement comment la ville a été construite. Donc voilà l'hippodrome, le théâtre, l'Odéon. Et ici, on a tout le centre-ville. C'est le forum, le temple, temple d'Apollo, temple de Héra, le statue de Poséidon, d'Aphrodite. Ici, il y a des bâtiments administratifs qu'on appelle à l'époque basilique. Basilique, ça vient de Basile, qui est le roi. C'est temple impérial. Et les gens, dans ces temples-là, on pourrait faire des discussions politiques où on pourra effectivement avoir des jugements. Disons, c'est un regard dont on voit la mer qui est à côté. On a essayé de tout transposer. On ne connaissait pas exactement comment les autres bâtisses étaient construites, mais certainement, on a une idée de ce que c'était la ville à l'époque. Et dans cette construction 3D, on a presque l'impression qu'on entre dans la ville de Corinthe, comme Paul est entré. C'est la via principale, c'est la rue principale. Avec un escalier monumental, avec des colonnes d'un côté et de l'autre, qui va directement dans le forum. C'est la agora, c'est la place publique où les choses les plus importantes arrivent. Et regardez, sur cette place-là que s'est trouvé le juge. Quand Paul a été amené devant Gallion, Galion a dû se trouver sur cette place-là. Et la foule était devant lui. Ça, c'est Poséidon, l'autre divinité importante pour eux. Regardez donc. Ben, merci. Tu peux arrêter. On peut arrêter juste. On n'a pas besoin de tout voir. Si vous voulez, je peux vous le donner. mais c'est comme. On a réussi à pénétrer dans une ville. À l'époque de l'apôtre Paul, dans une de ces villes-là dans lesquelles il a déjà effectivement été. Donc, question qu'on se pose, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce qu'on est devant l'apôtre Paul, quelle était la situation de l'apôtre Paul qui arrive là-bas? On l'a vu à Athènes. On l'a vu à Athènes, il était un petit peu tout seul. Quand il est arrivé à Athènes, il y avait des gens qui étaient venus avec lui, mais qu'il va libérer. Il va rester tout seul. Ses amis avec lesquels il est parti, avec Silas et Timothée, ils sont restés au nord de la Grèce, en Macédoine. Il était un petit peu seul et part de Athènes vers Corinthe. Probablement, il est allé par terre, per pedes, on dit en latin, à pied. C'est une distance d'approximativement 90 km entre Athènes et Corinthe. Donc, pas très long, raisonnablement, pour cette époque-là. Il aurait pu faire un ou deux jours. Et il arrive à Corinthe. Il est tout seul. Il n'a pas d'autres personnes qui sont autour de lui. Parfois, sa vie n'était pas de tout repos. Il n'était pas vraiment facile. Souvent, il devrait travailler pour gagner de l'argent. On ne nous explique pas quand on nous parle de toutes ces visites de l'apôtre Paul et qu'est-ce qu'il a fait. Mais quand nous lisons les explications dans les épîtres aux Thessaloniciens que probablement il a écrit pendant qu'il était à Corinthe, il écrit à l'église de Thessalonique. Il dit que c'est lui qui a travaillé, regardez bien, avec des semaines pour ne pas devenir une charge pour ceux qui étaient là-bas. Même pendant qu'il était au nord de la Grèce, il a travaillé pour pouvoir s'en sortir. On ne sait pas s'il avait assez d'argent pour vraiment bien vivre. On se pose des questions. Comment il organisait ses voyages? Est-ce qu'il avait quelqu'un qui l'attendait? Il ne connaissait pas grand monde quand il arrive à Athènes. Il ne connaissait pas grand monde qu'il arrive à Corinthe. Il n'y avait pas Expedia ni Hotel.com. On ne pouvait pas à l'époque réserver. Je ne sais même pas si c'était facile à trouver une place pour dormir. Donc, il arrive là-bas. Un petit peu découragé, parce que ça ne devrait pas être très gai à avoir l'expérience qu'il a eue à Athènes. Athènes, c'était, disons, si ce n'est pas un échec avec grand E, mais c'est un échec avec petit E. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui se sont convertis. Avec tout le travail qu'il a fait, même avec qu'il était reçu, il y avait qui? Dionys l'Aéropagite, une femme d'Amaris et encore quelques-uns. Donc, ce n'est pas la grande mission qu'il a réussi à faire à Athènes. Est-ce qu'il a retourné à Athènes, vous vous rappelez? Non, il n'a jamais retourné à Athènes. Est-ce qu'il a écrit une lettre aux Athéniens? Il n'a jamais écrit une lettre aux Athéniens, non. Il n'a pas une bonne expérience à Athènes. Et ça peut décourager. Arrive à Corinthe, et à Corinthe, il y a quelque chose qui se passe. Il arrive, il va chercher la synagogue. Et dans la synagogue, pensez-vous qu'il est bien reçu? Je vous dirais non. Regardez toute l'animosité que ces juifs de Corinthe ont contre lui. Et une des causes, juste pour expliquer, ça peut être en regardant l'histoire, en regardant ce que les autres disent. Il y a l'historien de la cour de Claude qui est Suéton qui raconte cette histoire-là. Il dit que les Juifs ont été expulsés de Rome parce qu'il y avait des troubles, il y avait des scandales parmi les Juifs incités par un certain Crestus. Incité par un certain qui? Bon, ils ne pourraient pas bien dire Christ, Christos, comme le grec. Ils ont probablement transformé le nom de Christos, que les Grecs disent, dans Crestus. Il n'était pas un chrétien, c'était juste un historien de la cour, souhaitons. Tous ces juifs-là qui ont été expulsés des Roms, probablement parce qu'il y avait déjà des chrétiens. Et à l'époque des Claude, on a trouvé aussi des scandales à Alexandrie entre les juifs et les juifs chrétiens. Et Claude, comme empereur, il interdit par la loi que les autres juifs de la région de Syrie puissent venir à Alexandrie. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent de la Syrie, de Antioche, de Palestine, ce sont les chrétiens. Ils ne voulaient pas voir tous ces scandales qui se produisent dans la ville d'Alexandrie. Donc, on a commencé, pas seulement l'apôtre Paul qui fait évangélisation et mission, il y a d'autres qui le font. Et il y a les chrétiens qui se déplacent. Et la bonne nouvelle est déjà arrivée à Rome, dans la synagogue. Et les juifs sont très mécontents de cela. Juste en parenthèse, il y en a des gens qui disent que la grande persécution des Néron contre les chrétiens, c'est à cause des juifs. La popessa, sa femme, était une juive. Donc les juifs ne regardent pas des bons yeux les chrétiens. Ils ne veulent pas les chrétiens. Et c'est toujours un grand scandale. Et ceux juifs-là, qui sont obligés de quitter Rome pour aller dans les autres villes, ne reçoivent pas avec un grand cœur l'apôtre Paul. Ils ne veulent plus de lui. Il n'est pas bien reçu. Donc, ça peut être une certaine déception, n'est-ce pas? Ça peut être une difficulté de la vie, un découragement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal? Oh, parfois, on a vraiment ras-le-bol. Il a trouvé ces Juifs-là qui viennent de Pont, qui viennent de la région de la mer Noire, Aquilas et Priscille. Il va devenir bons amis avec eux. Probablement qu'ils sont déjà chrétiens ou qu'ils ont déjà ouverture pour le christianisme depuis Rome. Sinon, je ne pense pas qu'il y aurait été une assez bonne relation entre eux. Mais le fait qu'il est là, il a presque le ras-le-bol quand il va dans la synagogue, il dit « Je sécue mes vêtements et mes sandales. Je n'ai ras-le-bol, j'ai fini, je ne veux plus entendre et voir les Juifs. Je m'en vais vers les païens. » Ça nous arrive à nous aussi parfois. Est-ce que vous n'avez pas... On est là dans ces quartiers depuis combien d'années? 3 ans. Est-ce que vous avez vu un grand développement? Est-ce que ça t'as pas vraiment cette envie-là de dire, j'en ai ras-le-bol, on fait des évangélisations, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne qui vient à l'église. On a presque ça, oui, on a presque l'impression de faire comme l'apôtre Paul. On essaie de faire le travail et les gens ne t'écoutent pas, n'ont pas besoin de Dieu. On comprend très bien la situation par laquelle l'apôtre Paul a pu passer. Oh, tout son effort. C'est dur, vraiment c'est dur parfois. Et on a besoin d'être encouragé, d'avoir des amis. Ça, les choses changent quand Timothée et Silas reviennent. On a besoin, c'est difficile quand tu es toute seule. Quand tu n'as pas un appui, quand tu n'as pas à qui te confier, quand tu n'as pas sur quoi te tenir, n'est-ce pas? Bien sûr, il est là avec Seigneur, et Seigneur qui va l'encourager. Mais on a besoin d'être appuyé. Il se sent un petit peu tout seul. Il était tout seul à Athènes, il était tout seul au début à Corinthe. Et Seigneur, par le Saint-Esprit, va pousser Timothée et Silas venir vers lui. Il n'a pas l'argent pour faire l'évangélisation. Il travaille le jour et juste sabbat. C'est juste le sabbat qu'il va à la synagogue, il essaye de persuader les Juifs. Donc, il ne fait pas son travail 100%, il n'a pas de moyens. C'est juste après l'arrivée de ses amis qu'il va complètement s'en charger d'évangéliser la ville de Corinthe. Avant, il n'a pas cette possibilité. Donc, ce n'est pas de tout repos la situation de Paul. Et parfois, quand tu es toute seule, c'est encore pire. Il y a un exemple que j'ai aimé en écoutant à un certain moment une prédication. Il parlait de la vigne. il disait, voilà, la vigne, c'est sur des arbustes, une plante qui est très forte, mais qui peut grandir combien tu veux, ou combien elle peut, si elle a un support. Si elle a un arbre, ou comme j'étais chez moi, une vigne sauvage sur une clôture, je l'avais coupée ce printemps-là, mais non, toute la clôture a été remplie de cette vigne. Donc, tant qu'elle a un support, elle peut grandir. S'il n'y a pas de support pour la vigne, elle ne grandit pas. Elle reste toute petite. Elle a besoin d'un support. Et celui-là disait, c'est un petit peu comme les chrétiens. Si tu as un support, si on a plusieurs qui te aident, si on a vraiment la confiance en le Seigneur, même s'il y a des tempêtes, plus il y a des vents, plus il y a des tempêtes, la vigne s'accroche. Elle devient de plus en plus puissante. La tempête, le vent ne peut pas la détruire tant qu'elle a un support. C'était un petit peu comme ça pour nous aussi. Pour l'apôtre Paul, ça aurait dû être pas facile parce qu'il s'est trouvé un petit peu seul dans une synagogue où les gens ne l'aiment pas. Mais même dans ces conditions-là, la ville de Corinthe est tout à fait différente de la ville d'Athènes. On parle de chef de la synagogue qui s'est converti. On parle aussi de plusieurs, même beaucoup, des Corinthiens qui se sont convertis et qui se sont fait baptiser. Donc, assez vite, avant même que les autres aides viennent. Donc, on voit quand même que la ville des Corinthes est différente. C'est là qu'il va l'aider. Une chose qu'on devrait quand même savoir, que même s'il y a des difficultés dans la vie, même si parfois c'est difficile, il y a toujours Dieu qui pourvoit. Parce que pour lui, on voit quelque chose qui est quand même exceptionnel. Il est seul, il n'a peut-être pas d'argent, mais Dieu va mettre devant lui une famille exceptionnelle qui deviendra un des six plus précieux amis. On les voit souvent. Il écrit des Corinthes, de Éphèse à Corinthe, Éphèse à Corinthe, il écrit salutations de Aquilas et Priscille et de l'église qui est dans leur maison. Quand il écrit par la suite, parce que Claude est mort et qu'ils peuvent retourner à Rome, il va écrire de nouveau salutations à Aquilas et Priscille. C'est une famille aussi très intéressante. On ne parle jamais des uns sans parler de l'autre. Jamais dans le Nouveau Testament, on n'a pas ça. Une famille qui est toujours là. On parle d'Aquilas, on parle de Priscille aussi. On ne parle pas juste d'Aquilas, on ne parle pas juste de Priscille. Combien d'autres cas, par exemple, Lydie, on ne sait même pas si elle était mariée. C'est une différence. Mais ce n'est pas le cas d'Aquilas et Priscille. Et il va rencontrer ces gens-là. Il va se lier à eux. Il va s'attacher à eux. Et Seigneur encore pourvoit qu'ils ont exactement le même métier que lui. Ah, c'était pas si évident de trouver tant de gens qui savent faire exactement quoi? Des tentes. Bon. Même si tu veux essayer aujourd'hui de travailler, faire des tentes, je ne pense pas qu'il y a tant de compagnies qui vont faire des tentes. Il y a un ou deux compagnies font assez de tentes pour tout le monde, pour aller dans les campings. Et à l'époque, on avait besoin des tentes. Pourquoi? D'abord pour l'armée romaine. Apparemment, il y a des commentateurs bibliques qui disent que les parents de Paul, c'était leur métier. Ils ont réussi à faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'ils ont réussi à faire des tentes pour l'armée romaine. Et l'armée romaine en avait besoin, avec toutes ces centaines de milliers de soldats, quand on est partout. Apparemment, il a fait beaucoup d'argent avec ça, et même avec cet argent, il a pu se payer la citoyenneté romaine, qu'il a eu depuis sa naissance. Parce que ses parents, ils ont réussi à en avoir, cette citoyenneté. Donc, qu'est-ce que c'est ces tentes? On parle d'une sorte de de poils, de chèvres de la région de Asie mineure. Et il a aussi tissé ce poil de chèvre qui donnait une sorte d'étoffe qui résistait bien à la pluie, qui fait qu'à l'époque, on n'avait pas toute cette industrie chimique d'aujourd'hui pour faire de l'imperméable. Donc, il fallait trouver des moyens assez naturels et qui réussissaient pas seulement à devenir imperméable, mais aussi réussissait aussi à garder la chaleur pendant la nuit et garder assez frais pendant le jour. On n'avait pas de l'air conditionné. Et on habitait tous dans cette région de la mer Méditerranée où pendant l'été, il fait vraiment chaud, comme en Afrique. Donc c'est un métier qui est bon, mais en même temps, on voit cette famille-là qui est obligée, n'est-ce pas, de quitter Rome, de laisser leurs clients, de rechercher une autre place. Et ça fait que Corinthe, c'est une bonne place pour un bon développement économique. Donc, ce qui est quand même exceptionnel, c'est de trouver une famille qui se sont mis à la disposition de l'Évangile, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de familles comme ça, accepter de se lier avec Paul, de travailler avec lui, et accepter de tout quitter et partir avec Paul. Vous vous rappelez, à la fin du texte qu'on a lu, ils sont partis avec Paul à Éphèse. Donc, tu as commencé à faire une bonne affaire. Tu trouvais des clients à Corinthe, pourquoi tu vas quitter, partir à Éphèse? Parce que Dieu a besoin qu'on ouvre là-bas une autre église. Et l'église, ça va être ouverte dans la maison d'Aquilas et Priscille. Une église qui deviendra une église missionnaire pour toutes les villes alentour. Quand on a parlé des Colossiens, Paul n'a jamais été à Colosse. Mais des gens des Colosses étaient venus à Éphèse, on les a formés là-bas. Ils sont retournés pour commencer une église dans leur ville. C'était la manière de travailler. Dieu pourvoit, même quand on est pauvre. Quand on est pauvre, on a plus d'amis, n'est-ce pas? Quand on devient riche, on n'a pas besoin de tant de monde. On s'enferme beaucoup trop. Dieu pourvoit de toute façon. Et on n'est pas plus heureux quand on est riche que si on n'est pas assez riche. Je me rappelle tous ces périodes que je suis arrivé à Montréal avec deux valises, n'est-ce pas? C'était super bien, je regarde. J'étais heureux, j'étais bien. Je n'avais pas d'argent, on travaillait des petites choses. Mais on avait réussi à se faire plein d'amis. Dieu pourvoit, Dieu est là. Il ne nous laisse jamais, jamais, jamais tomber. C'est ça la leçon. Même quand il était désillusionné de ce qui s'est passé avec lui à Athènes, même quand il était désillusionné parce que les Juifs ne veulent pas écouter la parole, Dieu pourvoit toujours quelque chose. Et le troisième point que je veux qu'on retient de tout ce texte que nous avons lu, c'est ce que Dieu lui dit. Ne te tais point. Ne tais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce texte? Combien ici on était avec nous quand on a vraiment commencé cette église? Il y en a quelques-uns. Est-ce que vous rappelez-vous, parce qu'on parle de ça, quel était un petit peu le motto que René, d'où ça vient ce texte? Effectivement, du texte que nous avons lu aujourd'hui. C'est effectivement la vision que l'apôtre Paul a eu pendant la nuit. Et cette vision lui dit quoi? Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quelle est la première question? Personne ne te fera du mal. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui lui a fait du mal? Ah non! Il y avait quelqu'un qui lui a fait du mal. Ça fait quelques semaines, vous vous rappelez, on était à Antioche de Pisidie. Qu'est-ce qu'on lui avait fait? Lapidé avec deux pierres, on l'a laissé comme mort. Alors, ils ont pensé qu'il est mort. Ils étaient étonnés. quand tout le monde est parti, on l'a laissé pour mort là-bas. Ceux quelques chrétiens, ceux qui ont cru, qui sont venus voir, il a réussi à se... Comment ça se fait? Et le lendemain, il est capable de quitter la région. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec lui à Philippe? On l'a battu avec des verges. Comme pour quelqu'un. Et quand les soldats, ils ont appris qu'il est romain, ils ont eu tous peur. Parce qu'on n'a pas droit de battre comme ça un citoyen romain. En quelqu'un d'autre, oui, tu peux le tuer, c'est pas grave. Mais Paul et Silas étaient tous les deux citoyens romains. On n'avait pas le droit. Et souvent, il était battu, laissé pour mort. Il nous raconte parfois sa situation, juste parce qu'on parle des Corinthiens. Regardez comme il parle de cette période-là, quand il écrit sa situation dans laquelle il passait parfois. Excuse-moi. Ça m'échappe. Exactement le texte. Mais vous savez très bien que par les tribulations, et par combien de tribulations, par combien de souffrances il a dû passer, par des brigands pendant tout ce chemin-là, tu peux rester sans argent, tu peux être laissé comme mort, sans tes biens, pendant que tu es en chemin. Parce qu'il faisait souvent des voyages d'une ville à l'autre, et il y avait des brigands partout. La difficulté de la vie, quand il nous raconte toutes ces tribulations, toutes ces souffrances, c'est impressionnant ce que l'apôtre Paul nous raconte sur sa vie. Mais ce qui compte, c'est que le Seigneur est là pour l'aider. Malgré la difficulté, malgré le ras-le-bol, parce qu'on devrait avoir une certaine difficulté à accepter tout cela. Et une des choses que le Seigneur lui dit, ne crains point, il n'y a personne qui va mettre la main sur toi. J'aurais pu avoir une certaine peur que je me ferais tabasser de nouveau avec tous ces Juifs. Le pauvre, il ne s'est fait pas lui tabasser, il s'est fait tabasser qui? Sosthène. Quand il écrit la première épître aux Corinthiens, qui va signer? L'apôtre Paul et le frère Sosthène. C'est eux qui envoient cette lettre. Oui, probablement qu'il était chef de la synagogue après Christ, qui s'est déjà converti, qu'on avait certains choses qu'il n'aimait pas trop les Juifs, parce que quand Gallien va pas accepter de faire un jugement entre Juifs et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont battre le pauvre Sosthène. Donc c'est un autre qui va en casser, pas lui. Le Seigneur lui avait dit, n'aie pas peur, parle, annonce la bonne évangile. C'est un petit peu exactement nos cas. On est devant une autre campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? Dans cette ville que nous avons pris comme mot, que le Seigneur nous a envoyé parce qu'il a un grand peuple dans la ville de Saint-Léonard. Peut-être qu'on est découragé, n'est-ce pas? Peut-être qu'on s'est dit, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça mérite de sortir encore dans la rue? Est-ce que ça mérite de parler avec les gens? De toute façon, on a presque l'impression qu'ils ne veulent plus entendre l'Évangile. Mais le message, peut-être que c'est pour nous, parce que c'est juste avant. Pourquoi on est arrivé exactement à ce moment-là, à ce texte? Et le message, c'est pour nous encourager. C'est à nous d'annoncer la bonne parole. C'est quoi la bonne parole? Qu'est-ce qu'il a annoncé l'apôtre Paul? Il a annoncé que le Messie est Christ. Celui qu'on l'attendait, c'est lui. Il a annoncé que le seul salut est par Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Il a essayé d'apporter des preuves qui étaient nécessaires. On a vu Antioche, on a vu Athènes, il a essayé de persuader les gens pour vraiment le faire comprendre que c'est ça la vérité. Tout son effort était pour faire comprendre les gens que Dieu a envoyé son Fils pour porter nos péchés sur la croix et nous donner l'espérance d'une vie éternelle. C'est l'annonce qu'il voulait faire, c'est l'annonce qu'on devrait faire autour de nous. On n'a pas une autre annonce à faire que celui que l'apôtre Paul avait. On a exactement la même chose à dire aux gens. Oui, c'est difficile. On a peut-être ras-le-bol. Moi, j'ai presque l'air sur ras-le-bol. Mais pourtant, Dieu, à travers le texte que nous avons aujourd'hui, nous dit, parle, ne te tais pas. Parle quand même. Dieu nous appelle à parler encore aux gens qui sont autour de nous. De ne pas reculer et s'enfermer sur nous-mêmes. C'est la pire des choses qui pourra nous arriver. C'est renfermer sur nous-mêmes. Ça a arrivé plusieurs fois dans l'histoire que des groupes se sont renfermés sur eux-mêmes. C'est la pire des choses. Dieu veut qu'on parle, qu'on sorte, même si c'est difficile, même si nous connaissons très bien que ces gens-là ne veulent pas écouter l'Évangile, qu'on prie exactement comme on a dit, qu'on prie pour ça, qu'on n'oublie pas de prier, de continuer à soutenir ça en prière, et en même temps, d'avoir la confiance que Dieu peut envoyer ce peuple-là qu'il a encore. Dieu a un peuple. Il a besoin d'entendre l'Évangile. Et nous devrions faire ce travail que l'apôtre Paul a dû le faire à l'époque. Il y avait un peuple qui s'est converti à l'époque de l'apôtre Paul. Oui, un grand peuple. Malgré les difficultés par lesquelles ils ont passé, malgré toute l'haine, toute l'animosité de juifs et des grecs, ils étaient là, ils ont continué le travail. Que Dieu nous aide à prendre ça comme leçon pour nous, maintenant, avant de commencer une nouvelle campagne d'évangélisation. Et de prendre ça de la part du Seigneur qui nous demande d'aller, continuer à prier et continuer à parler, annoncer la bonne nouvelle. Amen.